en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le Palais de la Découverte organisait un cycle de conférences exceptionnelles en décembre 2008, réunissant 4 prix Nobel français. Albert Fert, Claude Cohen-Tanoudji, Jean Marilène et Jean Jouzel se sont chacun exprimés dans leurs disciplines que sont la physique, la chimie et la climatologie. Canal Académie vous propose d'écouter l'intervention de Claude Cohen-Tanoudji sur les atomes ultrafroids, conférence enregistrée par le Palais de la Découverte à Paris. Quelques mots sur les atomes ultrafroids avant de débuter la conférence. Pendant longtemps, la lumière, émise ou absorbée par les atomes, a été considérée uniquement comme une source d'information sur les atomes, permettant de comprendre leur structure et d'identifier leur présence dans divers types de milieux. Mais la lumière est aussi un outil pour agir sur les atomes et pour manipuler leurs divers degrés de liberté. On peut en effet contrôler au moyen de faisceaux laser la polarisation, la vitesse et la position d'un atome neutre et de le refroidir à des températures très basses. Déjà, on entrevoit quelques applications possibles des atomes ultrafroids dans les horloges atomiques, dans le cadre de l'interférométrie atomique, une technique qui permet de déterminer une grandeur atomique par l'utilisation des phénomènes d'interférence, dans les tests des théories fondamentales ou encore dans la réalisation de nouveaux états de la matière comme les condensats de Bose-Einstein et les gaz de Fermi dégénérés qui ouvrent la voie à l'étude des gaz atomiques dilués ultra-froids dans le régime quantique. Écoutons désormais Claude Cohen-Tanoudji. Rappelons qu'il a reçu le prix Nobel de physique en 1997 conjointement avec Stéphane Chu et William Daniel Phillips pour ses travaux sur le ralentissement des atomes à l'aide de laser. Claude Cohen-Tanoudji est par ailleurs membre de l'Académie des sciences.
Je voudrais donc vous parler aujourd'hui un petit peu des atomes ultrafroids, qui est un domaine de recherche qui a connu un développement important au cours des 20-30 dernières années. De manière plus générale, la physique atomique a connu des avancées spectaculaires dans nos capacités de contrôle et de manipulation des divers degrés de liberté d'un atome. L'orientation du spin de cet atome grâce au pompage optique, le contrôle de la vitesse par ce qu'on appelle le refroidissement laser, le contrôle de la position qui permet de confiner des particules dans une petite région de l'espace, ce qu'on appelle le piégeage, puis également quelque chose de tout à fait spectaculaire, la possibilité de contrôler les interactions entre atomes au moyen de ce qu'on appelle les résonances de Feshbach, que j'essaierai de vous expliquer très brièvement. Dans cette conférence, je voudrais tout d'abord passer en revue très rapidement l'état de l'art dans ce domaine, où en sommes-nous, quelles sont les performances actuelles, discuter ensuite très rapidement les principales applications des atomes ultrafroids liées à leur faible vitesse, la possibilité donc d'avoir des temps d'observation très longs et donc des mesures très précises, d'une part, et d'autre part, la possibilité d'avoir des grandes longueurs d'onde de Broglie qui sont inversement proportionnelles à la vitesse, et donc de mettre en évidence le caractère ondulatoire de la matière. Et je voudrais aussi consacrer une partie de mon exposé à discuter les grandes tendances d'évolution, où allons-nous, quels sont les grands problèmes, et parler un petit peu en particulier des tests de plus en plus sévères des théories fondamentales, et également d'une tendance qui se fait jour, consistant à considérer les atomes ultrafroids comme un système modèle où tout est contrôlable et permettant d'avoir une meilleure compréhension de situations plus complexes rencontrées dans d'autres domaines de la physique. Donc d'abord, un petit peu les productions et manipulations des atomes ultrafroids et le refroidissement. Nous avons à notre disposition maintenant plusieurs types de refroidissement, le refroidissement laser, le refroidissement par évaporation, le refroidissement sympathique, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Et toutes ces méthodes permettent maintenant d'obtenir des gaz d'atomes, soit bosoniques, soit fermioniques, à des températures qui peuvent descendre en dessous du nano-kelvin, 10-9 kelvin. On peut dire en quelque sorte que nous savons faire maintenant au laboratoire des échantillons de matière qui sont les plus froids de l'univers, puisque l'univers est rempli du rayonnement fossile du Big Bang, qui est à 2,7 degrés Kelvin. Donc on est 9 ordres de grandeur en dessous. Également, on sait piéger les atomes. D'ailleurs, je sais qu'au Palais de la Découverte, il y a actuellement des expériences de piégeage en utilisant divers types de pièges. Les pièges laser, les pièges magnéto-optiques, les pièges magnétiques, les pièges de Penning ou de Pohl pour des particules chargées. Alors commençons tout ceci pour expliquer toutes ces méthode de manipulation des atomes, elle repose toute sur les forces exercées par la lumière sur les atomes. Pour avoir une idée simple de l'origine de ces forces, je peux commencer par un exemple très simple, où on considère une cible, c'est bombardée par des particules, un jet de particules venant toutes dans la même direction. Les particules heurtent la cible, rebondissent dans toutes les directions, et sous l'effet de ce bombardement, la cible est poussée. En termes plus savants, le transfert de quantité de mouvement des particules de projectiles sur la cible donne naissance à une force qui pousse la particule, la cible. Si on a un atome dans un faisceau lumineux, on peut transposer cette idée en remplaçant la cible C par l'atome et les projectiles P par des photons. L'atome peut absorber les photons et les remettre dans une autre direction, c'est un peu comme une particule qui rebondit sur l'atome, et sous l'effet du transfert d'impulsion des photons aux atomes, l'atome est poussé, ce qu'on appelle la pression de radiation. Et ce phénomène est en fait connu puisque, depuis longtemps, puisqu'on sait qu'il explique en partie la queue des comètes. Une comète, c'est un objet astrophysique qui gravite autour du Soleil, entouré de poussière, et la lumière qui vient du Soleil pousse les particules de ce nuage et donne naissance à la queue de la comète qui est dirigée dans le sens du Soleil et non pas le long de la tangente à la trajectoire. Vous concevez bien que si on remplace la lumière venant du Soleil par un faisceau laser, la force va être beaucoup plus importante et elle peut atteindre, comme je vais vous le montrer maintenant, elle peut communiquer des accélérations ou des décélérations de l'ordre de 10 puissance 5 fois l'accélération due à la gravité. Alors, quelques petits calculs d'ordre de grandeur. Si je considère la pression de radiation qui est liée à des cycles absorption-émission spontanée, le transfert d'impulsion dans ces cycles absorption-émission spontanée dure un temps, si le faisceau laser est suffisamment intense, qui est limité par la durée de vie de l'état excité, qui est typiquement de 10^-8 secondes. Donc un atome dans un faisceau laser exécute un nombre de cycles par seconde qui est de l'ordre de 1 sur taux, où taux est la durée de vie de l'état excité, c'est-à-dire 10 puissance 8 par seconde. Il absorbe et rémet des photons 100 millions de fois par seconde. Au cours de chacun de ces cycles, la vitesse moyenne de l'atome change d'une quantité égale à la quantité de mouvement transféré, qui est h nu sur c, divisé par la masse de l'atome, c'est h nu sur mc. Donc le changement de vitesse à chaque cycle est de l'ordre de h nu sur mc, qu'on appelle la vitesse de recul, et pour typiquement, ça vaut 1 cm par seconde, 10^-2 mètres par seconde. Pour le sodium, c'est 3 cm par seconde, pour le césium, c'est 3 mm par seconde. Si maintenant je m'intéresse à l'accélération ou à la décélération, c'est le changement de vitesse par seconde qui est donc égal au changement de vitesse par cycle que multiplie le nombre de cycles par seconde. Alors on a multiplié un nombre qui est petit, 10^-2 mètres par seconde, par un nombre qui est très grand, 10 puissance 8 par seconde, et ça donne une accélération de 10 puissance 6 mètres par seconde carré. Comme l'accélération de la gravité c'est 10 mètres par seconde carré, on obtient 10 puissance 5g. Et avec une force aussi importante, on peut arrêter un atome qui va à 1 km par seconde, par exemple qui sort d'un four, on peut l'arrêter en 1 milliseconde, 10 puissance 3 divisé par 10 puissance 6, temps au bout duquel il parcourt une distance qui est de l'ordre du mètre, de 0,5 mètre. Donc en laboratoire, on peut arrêter un jet atomique. Alors évidemment, à cause de la variation de vitesse de l'atome qui part de 1 km par seconde pour arriver à zéro, l'effet Doppler change de manière importante, et si le laser est résonant au début, rapidement il n'est plus résonant. Et d'où la nécessité de le maintenir en résonance, et une très belle idée de mon collègue ami Bill Phillips, qui a eu l'idée de placer les atomes dans un champ magnétique dépendant de l'espace, produit par un solénoïde à un roulement variable, de telle façon que la variation spatiale du déplacement Zeeman de l'arrêt atomique dans le champ variable, compense la variation de la fréquence apparente due au changement d'effet Doppler quand la vitesse change. Et on arrive ainsi à maintenir la condition de résonance tout au long de la trajectoire. C'est ce qu'on appelle un ralentisseur Zeeman. Une fois que les atomes sont arrêtés, ils ont une dispersion de vitesse autour de la valeur moyenne qui est zéro, et il s'agit de réduire cette dispersion, c'est-à-dire de refroidir. Il ne faut pas confondre refroidissement et ralentissement. Ralentissement diminue la vitesse moyenne, refroidissement, on diminue la dispersion des vitesses autour de la valeur moyenne. Alors, le mécanisme le plus simple, suggéré par Hensch, Hallow, Weinland et Demel au milieu des années 70, et étudié théoriquement par ses auteurs, consiste à placer l'atome entre deux faisceaux laser de même intensité, de même fréquence, nu L, nu laser, plus petite que la fréquence atomique nu A. Si l'atome est immobile, il n'y a pas d'effet Doppler, les deux pressions de radiation sont égales et opposées, elles se compensent à zéro, il n'y a aucune force. Si l'atome se déplace à une vitesse V vers la droite, ici, l'onde en sens opposé voit sa fréquence augmenter par effet Doppler, elle se rapproche donc de nu A, plus de photons sont absorbés, puisqu'elle est plus résonante, et la force augmente. Les conclusions sont inversées pour l'onde qui se propage dans le même sens, la fréquence s'éloigne de résonante, moins de photons sont absorbés, donc l'effet Doppler introduit une différence entre les deux forces, proportionnelle à la vitesse, quand la vitesse est faible, de sorte qu'elle peut, la force s'écrit F égale moins un coefficient fois V, le coefficient apparaissant comme une friction. On a ce qu'on appelle un milieu visqueux, une force linéaire en vitesse et opposée à la vitesse. C'est la raison pour laquelle les physiciens ont appelé ce dispositif une mélasse, comme un pot de miel où le miel sera remplacé par la lumière. Et voici par exemple une mélasse de sodium, où on a un nuage de sodium entre 6 faisceaux laser, 2 suivant X, 2 suivant Y, 2 suivant Z, qui refroidissent les 3 degrés de liberté. En fait, on peut faire la théorie de ce phénomène et on prédit des températures de l'ordre de 100 à 200 microkelvin, qui est déjà pas mal. À la fin des années 80, quand des méthodes de mesure de la température par méthode de temps de vol ont été développées, on s'est rendu compte que la température était 100 fois plus basse que prévu, ce qui est une bonne surprise. En général, ça ne se passe pas comme ça. On trouve des résultats moins bons. Ici, c'était meilleur, bien meilleur que ce que prévoyait la théorie, ce qui montre qu'il y a d'autres mécanismes qui entrent en jeu. Et en particulier, au laboratoire, avec mon collègue Jean Dalibard, nous avons mis en évidence un de ces phénomènes qu'on appelle le refroidissement Sisyphe, qui est un effet qui utilise à la fois deux effets qui ont été découverts au laboratoire bien longtemps avant, le pompage optique et les déplacements lumineux. Alors, les déplacements lumineux, c'est un effet qui était mon sujet de thèse, qui est quand un atome est dans une lumière non résonante, ses niveaux d'énergie sont déplacés proportionnellement à l'intensité de la lumière. Et avec un signe qui dépend du signe du désaccord entre la lumière et l'atome. Quand on a deux faisceaux laser qui se propagent en sens opposé et qui sont cohérents, ils donnent naissance à une onde stationnaire avec des nœuds et des ventres. Donc l'intensité varie dans l'espace, et donc le déplacement des sous-niveaux de l'état fondamental est modulé spatialement. On a des collines et des vallées de potentiel dans l'état fondamental. Également, la polarisation change d'un point à l'autre, et le pompage optique qui fait passer les atomes d'un niveau à l'autre par absorption d'un photon et puis rémission d'un autre photon, fait passer l'atome d'un sous-niveau à l'autre. Et on arrive à une situation où on représente ici les deux sous-niveaux émanent d'un état fondamental 1,5, qui sont modulés spatialement, et l'atome gravine, quand il se déplace vers la droite, il gravit une colline de potentiel et atteint le sommet de la colline où la polarisation de la lumière est telle qu'il a une probabilité importante par pompage optique d'être transféré dans l'autre niveau. Et recommence, et ainsi de suite. Il est dans la situation du héros de la mythologie grecque, Sisyphe, qui était condamné constamment à gravir des collines de potentiel. Dans ce processus, son énergie cinétique diminue, il est ralenti, refroidi, et on peut montrer que ce mécanisme explique les températures observées qui permettent d'arriver au micro-Kelvin. Nous avons au laboratoire développé d'autres méthodes encore plus efficaces, comme le refroidissement subrecul, que je n'ai pas le temps d'expliquer ici. Je voudrais juste passer maintenant au piège, rapidement. Une autre application des déplacements lumineux, c'est ce qu'on appelle les pièges laser. Si on a un faisceau laser focalisé, et s'il est désaccordé vers le rouge, la fréquence laser plus petite que la fréquence atomique, à ce moment-là, on peut montrer que le déplacement lumineux est négatif. Et comme il est proportionnel à l'intensité lumineuse, il va être maximum au foyer du laser où l'intensité est la plus grande. Donc on va créer un puits de potentiel dans lequel les atomes vont pouvoir se piéger s'ils sont suffisamment lents, s'ils sont suffisamment froids. Donc si on a préalablement refroidi les atomes et qu'on applique un faisceau laser, on peut piéger les atomes au foyer du faisceau laser. Une configuration particulièrement intéressante est celle qui est réalisée quand on utilise une onde laser stationnaire, auquel cas on obtient une série de puits de potentiel répartis régulièrement dans l'espace, comme une boîte à œufs, et les atomes viennent se mettre au fond de ces puits, comme les œufs où se rangent dans une boîte à œufs. C'est ce qu'on appelle un réseau optique. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le mouvement d'un atome dans un réseau optique présente beaucoup d'analogies avec le mouvement d'un électron dans le potentiel périodique créé par les ions du cristal dans lequel il se propage. Et donc on peut faire un modèle pour décrire une situation analogue à celle d'un électron dans un cristal. Le point qui est intéressant, c'est que, à la différence du potentiel d'un cristal, un réseau optique est très facilement manipulable. On peut couper brusquement les faisceaux laser et donc supprimer le réseau optique, ce qui n'est pas le cas pour le potentiel périodique d'un cristal. On peut changer la profondeur des puits en changeant l'intensité du laser. On peut changer la période spatiale en changeant l'angle entre les deux faisceaux laser. On peut changer la fréquence d'un des faisceaux laser et obtenir un réseau qui se déplace, soit à vitesse constante, soit de vitesse accélérée. On peut enfin créer des réseaux de dimensionnalité 1, 2 ou 3, c'est-à-dire qu'on peut varier la dimensionnalité du système. Donc on a un immense nombre de degrés de liberté qui rend ce système extrêmement attractif. Alors il y a d'autres types de pièges, comme le piège magnéto-optique, qui est en opération ici au Palais de la Découverte, les pièges magnétiques que je n'ai pas le temps d'expliquer davantage. Un autre refroidissement extrêmement intéressant, c'est ce qu'on appelle le refroidissement évaporatif. Une fois que les atomes ont été refroidis suffisamment, à une température suffisamment basse, et qui sont en densité suffisante, on peut utiliser des collisions pour les refroidir. Considérez par exemple deux atomes dans un piège d'énergie E1 et E2 qui subissent une collision élastique et qui acquièrent les énergies E3 et E4. Et bien sûr, avec conservation de l'énergie, on a E1 plus E2 égale E3 plus E4. Vous voyez que si E4 est supérieur à la profondeur U0 du puits, l'atome E4 s'échappe du puits et quitte le puits. Celui qui reste a une énergie E3 beaucoup plus basse, et quand il entre en collision avec tous les autres, par thermalisation, l'ensemble va se refroidir. C'est exactement ce que vous faites quand vous soufflez sur votre tasse de café ou de thé pour éliminer les molécules chaudes, et celles qui restent se refroidissent. On perd des atomes, mais la température décroît de manière spectaculaire. Alors, il y a une difficulté ici, c'est que quand on a par exemple des fermions, des atomes fermioniques, et qui sont dans un piège magnétique, par définition du piège magnétique, ils sont tous polarisés dans le champ magnétique, ils ont tous leur spin parallèle. Et on sait très bien que deux fermions de spin parallèle ne peuvent pas s'approcher l'un de l'autre à cause du principe de Pauli qui les empêche d'être au même point de l'espace. Deux fermions ne peuvent pas être au même point avec le même spin. Donc ils ne peuvent pas entrer en collision. S'ils ne peuvent entrer en collision que dans ce qu'on appelle l'onde P, ils ne peuvent pas entrer en collision dans l'onde S, et dans l'onde P, ils passent l'un à une distance l'un de l'autre de l'ordre de la longueur d'onde de De Broglie. S'ils sont froids, la longueur d'onde de De Broglie devient supérieure à la portée du potentiel entre les deux atomes, et les deux atomes ne se voient plus, ils n'entrent plus en collision. C'est un effet d'ailleurs qui a été étudié au laboratoire en grand détail sur l'hélium 3 polarisé, en particulier par Michel Leduc, et qui a donné naissance à toute une série de travaux fondamentaux. Alors, on ne peut pas les refroidir par évaporation, mais alors ce qu'on utilise, on utilise un mélange des fermions polarisés avec une autre espèce, comme des bosons, qu'on sait refroidir par évaporation et par contact thermique entre l'espèce qu'on a refroidie et les fermions polarisés. On refroidit les fermions, c'est ce qu'on appelle le refroidissement sympathique. Donc, on sait maintenant refroidir tout à des températures extrêmement basses. Et ce que je voudrais même vous montrer maintenant, c'est qu'on peut en plus, depuis quelques années, contrôler les interactions. Alors, qu'est-ce que c'est que les résonances de Fischbach? Je voudrais passer un petit moment. Considérez deux atomes qui rentrent en collision avec une énergie très faible, petit e, parce qu'ils sont très froids, et ils sont soumis au potentiel moléculaire que j'ai représenté ici, qui représente le potentiel d'interaction entre les deux atomes. L'énergie est positive, donc les deux atomes, s'il n'y avait que ce potentiel, rentrent en collision et puis vont repartir. Le canal correspondant est dit ouvert. Maintenant, il n'y a pas que ce potentiel d'interaction, il y a d'autres configurations des spins, il y a d'autres canaux, et j'en ai représenté un autre ici. Au-dessus du canal ouvert, il y a un canal que j'ai représenté en rouge ici, et pour lequel l'énergie E tombe en dessous du seuil de dissociation de ce canal ici, et c'est la raison pour laquelle il est dit fermé, parce que cet état initial n'est pas un état de collision de ce second canal. Donc on a un canal ouvert et un canal fermé situé plus haut. Il se peut que ce canal fermé contienne des états liés. J'en ai représenté un ici. Le canal fermé contient un état lié dont l'énergie et résonance est assez proche de l'état de collision E dans le canal ouvert. Donc on a un canal ouvert avec un état d'énergie E et un canal fermé au-dessus qui a un état lié d'énergie très voisine. Alors, les canaux sont définis à partir d'un Hamiltonien approché. L'Hamiltonien exact, c'est l'Hamiltonien approché plus des termes correctifs. Et ces termes correctifs peuvent coupler les deux canaux. On peut les appeler Hamiltoniens d'interaction. Et à ce moment-là, les deux atomes qui entrent en collision, cet état de collision peut être couplé par l'Hamiltonien d'interaction à l'état lié dans le canal fermé. En termes quantiques, on peut dire que les deux atomes entrant en collision effectuent une transition virtuelle vers l'état lié, puis reviennent dans l'état initial. Et cette transition virtuelle dure un temps d'autant plus long que la différence d'énergie entre l'état lié et l'état lié et l'état initial est plus faible. Donc, quand on se rapproche de résonance, cette transition virtuelle va durer un temps de plus en plus long, et par conséquent, la collision va être perturbée de plus en plus. On conçoit donc que cet effet va changer considérablement le paramètre physique fondamental qui décrit la collision à très basse énergie, qu'on appelle la longueur de diffusion, petit a. Si vous voulez, il y a une analogie entre ce phénomène et la diffusion résonante d'un photon par un atome. La diffusion résonante d'un photon par un atome, c'est un état libre, un photon d'énergie nu qui arrive sur un atome, lequel a une transition d'énergie nu zéro. Le photon peut être absorbé virtuellement par l'atome, puis réémis. Et quand nu se rapproche de nu zéro, cette durée de transition virtuelle intermédiaire va durer de plus en plus longtemps et l'amplitude de diffusion va être de plus en plus importante. C'est ce qu'on appelle la diffusion résonante quand la lumière du faisceau incident se rapproche de résonance. Il y a une analogie très étroite. Alors, pour la diffusion résonante, pour balayer la résonance, on balaye la fréquence du faisceau lumineux qui arrive sur l'atome ou on balaye la fréquence de l'atome. Comment fait-on pour la résonance de Feshbach? L'idée est simple. Les deux canaux que j'ai décrits tout à l'heure, canal fermé et canal ouvert, ne correspondent à des configurations différentes des spins des atomes qui rentrent en collision et par conséquent à des moments magnétiques différents. Donc si on applique un champ magnétique, les deux atomes dans le canal ouvert vont être déplacés par interaction magnétique d'une manière différente des deux atomes dans l'état lié dans le canal fermé. Donc en changeant le champ magnétique, on peut varier la différence entre l'état discret et l'état de collision. Et voilà ici, si je change le champ magnétique, je peux balayer et amener l'état et résonance en résonance avec, dans un sens ou dans l'autre. Donc on peut balayer la résonance simplement en tournant un bouton, en faisant varier le champ magnétique dans lequel se trouvent les atomes. Et donc on peut faire varier l'amplitude de diffusion, la longueur de diffusion, de manière spectaculaire. On peut faire le calcul de cette variation et voilà ce qu'on trouve. On trouve que la longueur de diffusion petit a, en fonction du champ magnétique, se comporte comme une hyperbole, comme une courbe de dispersion. Elle subit des variations considérables au voisinage de la valeur du champ B0, pour lequel l'énergie de l'état lié, corrigée du déplacement introduit par le couplage avec le continuum, tout état discret couplé à un continuum et déplacé, coïncide avec l'énergie E de collision. Ça, c'est l'énergie de résonance. Et on a une longueur de diffusion qui varie de cette manière. Alors, on peut montrer qu'une longueur de diffusion positive, ça correspond à un gaz dont les interactions à longue distance sont répulsives. Donc, A positif, gaz répulsif, A négatif, gaz attractif, et A égale 0, gaz parfait, qui n'a pas d'interaction. Donc, en balayant le champ magnétique, on peut avoir un gaz répulsif, ici, un gaz parfait, et ici, un gaz attractif. Et cette valeur-là, c'est le background, la valeur qu'aurait la longueur de diffusion s'il y avait uniquement le canal ouvert, s'il n'y avait pas le canal fermé en plus. Donc, vous voyez qu'en balayant le champ magnétique, on peut explorer des situations complètement différentes, attraction, répulsion, rien du tout. Et surtout, quand on est près de la résonance, on a à ce moment-là A en module qui est infini, et on a donc un système très, très, très interactif avec des corrélations très importantes. On peut montrer aussi que l'Hamiltonien à deux canaux, dans la région A positif, a un état lié, alors qu'il n'a pas d'état lié dans la région négative, et que l'état lié ici part quadratiquement, de sorte que si on part de la région A négative et qu'on balaye le champ, l'état le plus bas va être un état lié. Donc si on a deux atomes très froids, et qu'on balaye la résonance de Feshbach d'une région A positive à une région négative, on peut transformer les deux atomes entrant en collision en un état lié. On peut, à partir de deux atomes ultrafroids, produire une molécule ultrafroide. Et donc ça, c'est une méthode extrêmement séduisante pour faire des molécules ultrafroides à partir d'atomes. Donc ça, c'est vraiment une avancée spectaculaire de pouvoir contrôler et manipuler les interactions entre atomes. Alors, je voudrais passer maintenant à quelques applications. D'abord, les tests de plus en plus sévères des théories fondamentales. Et je vais parler d'un d'entre eux, qui est la mesure du temps, et les horloges atomiques à atomes ultrafroids. Je rappelle très brièvement ce qu'est une horloge atomique. Une horloge atomique, c'est un oscillateur, par exemple à quartz, hein, à partir duquel on fait une onde électromagnétique qui balaye une résonance atomique. Comme l'unité internationale de temps, la seconde, est définie à partir de la transition hyperfine de l'état fondamental du césium, on balaye cette résonance du césium. On a une résonance de fréquence nu 0 et d'une certaine largeur delta nu. Et avec un dispositif électronique, on asservit la fréquence de l'oscillateur de manière à rester centré sur la fréquence atomique. Donc le quartz n'est pas libre de bouger, de changer de fréquence. Sa fréquence est assujettie par ce dispositif à rester toujours égale, à modulo une multiplication près, à la fréquence de l'atome. Donc on a réalisé un standard de fréquence centré sur l'atome, qui est donc la fréquence d'un atome est quelque chose d'universel, elle est la même partout, alors que deux quartz différents ont des fréquences différentes, et puis la fréquence peut changer de manière constante au cours du temps. Maintenant, il est bien clair sur cette figure que plus l'arrêt va être étroit, plus l'arrêt est étroite, plus l'asservissement de l'horloge va être efficace. Donc on a intérêt à utiliser des résonances étroites. Or, le principe d'incertitude temps-énergie montre que la largeur d'une résonance, delta nu, est inversement proportionnelle au temps de mesure, au temps d'observation. Comme les atomes très froids sont très lents, ils se déplacent à des vitesses de l'ordre du millimètre par seconde, alors que les atomes de la salle qui nous entoure, de l'air qui nous entoure dans cette salle, les molécules d'azote et d'oxygène, se promènent à des vitesses de l'ordre de 300 mètres par seconde, on peut les observer beaucoup plus longtemps et donc avoir des raies beaucoup plus étroites et donc des horloges beaucoup plus précises. Donc c'est clair que les atomes ultrafroids permettent de gagner un temps, une précision considérable sur les horloges. Alors, il y a plusieurs types d'horloges qui ont été construites. Les fontaines atomiques consistant, au lieu d'utiliser un jet atomique qui tomberait sous l'effet de la gravité, d'utiliser des atomes et de les lancer en l'air au moyen d'une impulsion laser. Et on les lance en l'air et ils forment ce qu'on appelle une fontaine, comme une fontaine d'eau, à part que les molécules d'eau sont remplacées par des atomes qui sont lancés en l'air et ils passent une fois à la montée, une fois à la descente, dans la boucle qui mesure leur fréquence de résonance. Et le temps d'interaction est de l'ordre d'une fraction de seconde, alors que dans un jet atomique qui va 1 km par seconde sur un mètre, il est de l'ordre de la milliseconde. Donc on gagne beaucoup d'ordre de grandeur sur le temps d'observation. Alors évidemment, si on veut faire des fontaines de plus en plus hautes, on est limité parce que le temps d'observation ne croît que comme la racine carrée de la hauteur, d'où l'idée d'aller dans l'espace. Il y a eu toute une série de vols paraboliques dans l'avion 0G du CNES, qui fait le pilote se met en phase ascendante, coupe les gaz, donc il fait une parabole en chute libre, et puis avant de s'écraser, il remet les gaz et il fait une deuxième parabole, parabole qui dure à peu près 20 secondes, et dans l'avion, il y a une vingtaine de groupes physiques, chimie, industrie, biologie, qui font des manips en 0G, zéro gravité. Ça marche très bien, donc on arrive à tout contrôler, et je suis heureux d'avoir appris il y a quelques jours que le CNES a finalement accepté ce projet avec l'Agence spatiale européenne, et qu'il va avoir une horloge à atomes froids qui va être placée sur la station spatiale. C'est un projet qu'on appelle ACES, Atomic Clock Ensemble in Space. Il y aura une horloge à atomes froids, un maser à hydrogène. Alors, ce qui est intéressant, c'est quel est l'ordre de grandeur de la précision qu'on atteint. On atteint des précisions qui vont dans les 10-16. Alors, 10-16, ça dit rien. Qu'est-ce que c'est ? C'est 10-16, ça veut dire qu'une horloge qui part maintenant, 300 millions d'années après, elle sera fausse par moins d'une seconde. Donc ça montre la précision considérable de ces horloges. Et par suite, le test qu'on peut en faire, le déplacement gravitationnel d'Einstein, un effet des plus spectaculaires de la relativité générale, c'est que deux horloges situées dans deux champs de gravitation différents n'ont pas la même fréquence. Si on prend deux horloges dans le champ terrestre, situées à 1 mètre l'une de l'autre dans le champ terrestre, elle varie d'une quantité qui est j'ai la gravité delta z, différence d'altitude divisée par le carré de la vitesse de la lumière, 1 mètre, ça donne 10 moins 16, delta oméga sur oméga, 10 moins 16. Donc avec des horloges de ce type, on est capable de savoir si deux horloges sont situées à 1 mètre près. Des horloges optiques, actuellement, arrivent à 10, quelques 10 moins 17, c'est-à-dire qu'on peut détecter des différences d'altitude de 10 cm. Et si on a une horloge sur la station spatiale à 400 km, une horloge sur le sol, le différence de fréquence relative sera 5, 10, moins 11. Et comme on a une précision de 10, moins 16, on pourra mesurer le redshift d'Einstein avec une précision 25 à 100 fois supérieure à toutes les mesures antérieures. Donc ça, c'est quelque chose de spectaculaire. On soumet la relativité générale à des tests de plus en plus sévères. Alors ça ne s'arrête pas, ça continue. La course, la précision continue. Et il y a actuellement des horloges optiques. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que le facteur de qualité d'une résonance, Q, c'est nu sur delta nu, ou nu sur la fréquence, delta nu sur la largeur. Si on passe, si on garde delta nu le même, et qu'on passe d'une horloge micro-ondes, qui est l'horloge à césium, à une horloge optique, nu augmente considérablement, et le facteur Q de la résonance devient beaucoup plus important. Alors il y a deux types d'horloges optiques qui sont actuellement développées. Celles qui sont basées sur un seul ion, piégé, refroidi dans un piège de Penning ou de Paul, et on utilise une transition de cet ion entre l'état fondamental et un état métastable de très longue durée de vie, de manière à avoir une raie très fine. Ça pose d'ailleurs des problèmes de détection qui sont très élégamment résolus par la méthode de l'étagère, que je n'ai pas le temps d'expliquer ici. Et puis il y a une autre méthode qui est également très prometteuse, c'est de prendre des atomes neutres dans un réseau optique. Alors il y a beaucoup plus d'atomes, le rapport signature-bruit est plus important, mais il y a les déplacements lumineux créés par le champ, la lumière qui crée le réseau. Mais il y a une idée très astucieuse d'un physicien japonais, Katori, qui a montré qu'on peut choisir la fréquence du laser, la longueur d'onde du laser, à une valeur qu'on appelle magique, telle que les déplacements lumineux des deux niveaux de la transition d'horloge sont les mêmes, de sorte que la différence entre ces deux n'est pas déplacée par la lumière. Alors, des horloges de ce type qu'on développe, d'ailleurs la photo du piège de strontium que je vous ai donné précédemment, c'est une horloge optique dans un réseau optique qui est fait à l'Observatoire de Paris, en particulier par Pierre Lemonde. Alors récemment, il y a eu une expérience qui a été publiée il y a à peu près 2 mois, à Boulder, il y a un groupe, le groupe de Dave Wineland et Jim Berquist, qui a fait une horloge optique, deux horloges optiques, l'une aluminium plus un ion aluminium, l'autre au ion mercure, et qui a mesuré le rapport de ces deux fréquences avec une précision de quelques 10-17. Vous voyez, c'est impressionnant, le rapport entre la fréquence de l'aluminium plus et du mercure plus, il est donné par tous ces chiffres, avec cette erreur qui correspond à 3 ou 4, 10-17. Alors ce qui est intéressant dans cette manip, c'est que si on mesure le rapport de fréquence de deux atomes différents, et si on le suit pendant un certain temps, on peut voir s'il change. Et vous allez me dire pourquoi il changerait? Parce que ce rapport dépend des constantes fondamentales de la physique et que certains modèles cosmologiques prédisent des variations des constantes fondamentales sur une échelle de temps cosmologique. Alors évidemment, on travaille sur 4 mois, un an, 2 ans, ce n'est pas très long, mais si la précision est de 10-17, on peut espérer voir quelque chose. Alors voilà par exemple, cette expérience, AL plus sur AG plus, ça donne une variation de alpha, alpha point sur alpha, qui est donnée dans cette barre d'erreur ici. Ici, ça ne peut venir que de alpha, parce qu'une fréquence optique ne dépend que de la constante de structure fine, alpha. Si on prend une structure hyper fine, ça dépend également du moment magnétique du noyau. Et donc la variation de la structure hyper fine pourrait venir soit d'une variation de alpha, soit d'une variation du moment magnétique nucléaire. Et la manip faite sur ytterbium plus sur césium, ça donne cette barre-là. Et puis la manip faite sur Hg plus sur césium, ça donne une barre-là. Et quand on combine toutes ces mesures entre elles, on trouve que l'intervalle dans lequel mu et alpha peuvent varier, c'est donné par cette petite ellipse. Et ça permet de montrer que alpha point sur alpha est de l'ordre de moins 1.6 plus ou moins 2,3, 10 moins 17 par an. Alors ça reste encore en dessous d'une éventuelle variation, puisque c'est compatible avec zéro. Mais si on augmente encore le temps de mesure et la précision, on peut espérer voir si oui ou non les constantes fondamentales de la physique varient dans le temps. Voilà un autre test fondamental. Alors, deuxième grande application des atomes froids, très faible vitesse, très grande longueur d'onde de Breuil, et en particulier condensation de Bose-Einstein. Ça a été un résultat spectaculaire. Et l'idée est la suivante, j'ai représenté ici les paquets d'ondes des atomes d'un gaz pour des températures décroissantes. Au début, à température élevée, la longueur d'onde de De Broglie est toute petite, les paquets d'ondes sont extrêmement petits et ils sont très séparés les uns des autres, et on peut oublier la nature ondulatoire des atomes et les considérer comme des boules de billard. Et puis on refroidit la température, les paquets d'ondes commencent à apparaître, mais ils restent encore bien séparés, et puis on diminue encore, arrive un moment où ils commencent à s'enchevêtrer, à se recouvrir, et ça c'est la température critique prédite par Einstein en 1924. Quand les paquets d'ondes se recouvrent, ils interfèrent, et c'est cette interférence quantique qui va être à l'origine du phénomène de condensation qui entraîne que les atomes vont avoir tendance à se mettre tous dans l'état fondamental du puits qui les contient. Et quand la température descend encore, tous les atomes vont être dans l'état fondamental du puits qui les contient. Autrement dit, à température suffisamment basse, tous les atomes vont être dans la même fonction d'onde. On a une onde de matière macroscopique. On a 1 million d'atomes, tous dans une fonction d'onde qui a une cinquantaine de microns d'extension spatiale. Alors, j'aime bien cette figure qui a été publiée par Science, sur la couverture de Science, qui représente les atomes d'un condensat qui sont tous en phase, comme les soldats d'une armée qui marchent au pas. Et les soldats qui sont ici autour, ce sont des atomes qui ne sont pas encore condensés, qui sont encore dans des états excités et qui vont finalement rejoindre la troupe et marcher tous ensemble. Alors, ces condensats ont été découverts en 1995. Ça a été, je crois, l'une des applications les plus importantes des atomes froids, des atomes ultra-froids. Et ils constituent des systèmes quantiques macroscopiques qui possèdent des propriétés tout à fait remarquables, comme la superfluidité, la cohérence, qui jusqu'ici n'avaient été observées que sur des liquides, comme l'hélium superfluide, ou des solides, comme les supraconducteurs de la physique du solide. Mais ils apparaissent maintenant sur des systèmes gazeux, beaucoup plus simples à comprendre, parce que les interactions sont moins fortes que dans un liquide ou dans un solide. Voilà la première expérience du groupe de Gila, en 95, sur le rubidium, 87, au-dessus du seuil de condensation, c'est des photos en fausse couleur qui donnent la forme du nuage d'atomes détecté optiquement. Quand on arrive au seuil de condensation, on voit le nuage thermique et puis un pic qui sort, qui est les nuages des atomes qui sont dans l'état fondamental, et qu'on est en dessous du seuil, il n'y a plus que le condensat. Il y a eu d'autres observations sur la condensation sur toute une série d'atomes, et maintenant la liste des condensats a beaucoup augmenté. Pour cette découverte, Eric Cornell et Carl Wieman au GILA et Wolfgang Ketterle au MIT ont obtenu le prix Nobel en 2001, prix Nobel de physique. Alors, exemple de propriété macroscopique de ces condensats, la cohérence. Si on prend deux condensats, qu'on les laisse tomber, qu'ils s'élargissent, ils se recouvrent, on voit apparaître des magnifiques franges d'interférence qui montrent que ce sont des objets cohérents. Et on peut montrer que la longueur de cohérence d'un condensat, c'est la taille du condensat. La phase est la même en tous les points d'un condensat. Si on a un condensat dans un piège et qu'on fait un petit trou dans le piège, on laisse s'échapper du puits un faisceau cohérent d'ondes de De Broglie atomiques qui est l'équivalent pour les ondes de De Broglie de ce qu'est un laser pour les ondes lumineuses. Et ça s'appelle un laser atome. Ça aussi, c'est un résultat remarquable. Si on essaye de faire tourner un condensat en le mettant dans un piège, en faisant tourner le piège, il ne tourne pas comme un objet classique, il tourne comme un objet quantique avec ce qu'on appelle des tourbillons quantiques, où la circulation de la vitesse autour de l'axe du vortex est quantifiée. Ça, c'est une propriété remarquable. Et qu'on augmente la vitesse de la rotation, ça, c'est une expérience dans le groupe de Jean Dalibard à l'École normale, ça, c'est dans le groupe de Wolfgang Ketterle à MIT, on voit apparaître un réseau de vortex réguliers qui rappelle étrangement le réseau analogue observé dans un supraconducteur de deuxième espèce qu'on appelle le réseau d'Abruikosov. Donc, vous voyez que c'est un système extrêmement riche. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut généraliser, passer, condenser des objets un peu plus complexes? Et la première idée, est-ce qu'on peut faire des condensats de molécules? Alors d'abord, est-ce qu'on peut faire des molécules ultra-froides? Généraliser directement la méthode appliquée aux atomes, aux molécules, n'est pas facile. Parce qu'une molécule a beaucoup de niveaux d'énergie, de rotation, de vibration. Si elle absorbe un photon, quand elle retombe par émission spontanée, elle va retomber dans des tas de niveaux. La transition n'est pas fermée. On ne peut pas répéter le cycle absorption-émission autant de fois que pour un atome. Mais il y a des méthodes à Sitchell pour circonvenir à cette difficulté. Une première, c'est ce qu'on appelle la photo-association. On colle les deux atomes l'un à l'autre par un photon. Une autre méthode consiste, à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à balayer une résonance de Fechbach de la région A positif où il n'y a pas d'état lié, ou pardon, de la région A négatif où il n'y a pas d'état lié, vers la région A négatif, A positif où il y a un état lié. Et à ce moment-là, à partir de deux atomes, on forme une molécule dans un état lié proche de la limite de dissociation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend des molécules formées de deux atomes avec des spins différents dans la région A positive. On a constaté, et en particulier au laboratoire ici à Paris, dans le groupe de Christophe Salomon, que la durée de vie de molécules formées de deux atomes fermioniques de spins différents était beaucoup plus longue que la durée de vie des molécules formées avec des atomes bosoniques. Pourquoi ? En partie, une des raisons de cette grande durée de vie, c'est lié au principe de Pauli. Si on a une molécule de deux fermions avec des spins différents, plongée dans un gaz avec des atomes de spins soit comme ça, à cause du principe de Pauli, comme il y a les deux états de spins dans la molécule, ni les spins comme ça, ni les spins comme ça ne peuvent s'approcher, et les collisions sont beaucoup moins importantes si les molécules sont fermioniques avec des états de spins différents. Et à ce moment-là, on peut montrer qu'on peut atteindre des densités beaucoup plus importantes et suffisamment importante pour réaliser un condensat. Et cinq groupes différents dans le monde observaient des condensats moléculaires de molécules formées de deux atomes fermioniques. Donc on a étendu la condensation de Bose-Einstein des atomes aux molécules. Il y a deux mois, il y a un résultat spectaculaire qui a été obtenu à Gila, Boulder, ce qu'on appelle des molécules dipolaires. Une molécule dipolaire, c'est une molécule formée de deux atomes différents. Et comme les atomes sont différents, la molécule a un moment dipolaire électrique. D'accord ? Et ça, c'est extrêmement important. Alors, qu'est-ce qui a été réalisé par cette équipe, l'équipe de Debbie Jean et de John Ye, au Gila Boulder ? Ils ont obtenu un gaz de molécules 40 potassium 87 rubidium, avec une densité de 10 puissance 12 molécules par centimètre cube, qui est considérable, une température de 350 nanokelvin dans l'état revibrationnel fondamental. Alors comment ils ont fait ? Ils ont d'abord balayé une résonance de Fechbach, créé des molécules dans un état très excité, proche de la limite de dissociation, et par ensuite, par une transition Raman stimulée, par ce qu'on appelle l'effet STIRAP, Stimulated Raman Adiabatic Passage, ils ont fait passer des molécules de cet état vibrationnel très excité vers l'état fondamental avec une efficacité de 95%. Et on peut espérer qu'il y aura un condensat moléculaire dipolaire. Et pourquoi c'est important pour la physique ? C'est parce qu'à la différence des atomes, les interactions entre deux atomes sont à très courte portée, c'est des interactions d'échange, alors que si les molécules sont dipolaires, les interactions sont dipôle-dipôle en 1 sur R3 et très anisotropes. Deux dipôles comme ça se repoussent, deux dipôles comme ça s'attirent. Donc on aura un condensat avec des interactions dipolaires à longue portée et des interactions anisotropes. Donc ce résultat donc, date du 18 septembre 2008. Vous voyez que c'est, la physique avance très vite. Et dans ce domaine, on a réalisé des projets spectaculaires. J'en arrive à la dernière partie de mon exposé. Les atomes ultrafroids, un système modèle pour étudier des systèmes plus complexes. Et je vais donner trois exemples. La transition superfluide isolante de Mott, la transition Bose-Einstein condensation Bardeen-Cooper-Schrieffer et les simulateurs quantiques. Premier exemple, c'est une très belle application des réseaux. Supposez qu'on a des atomes dans un réseau avec des puits très très peu profonds et une température extrêmement basse. À ce moment-là, l'effet tunnel, comme les puits sont peu profonds, l'effet tunnel est important. L'onde de matière est délocalisée sur tout l'ensemble du réseau. En fait, si la température est froide, assez froide, tous les atomes vont se condenser dans l'état fondamental de ce potentiel, qui est une fonction de Bloch, la fonction de Bloch de l'état fondamental. On aura donc une onde de matière délocalisée, et à ce moment-là, c'est une phase superfluide, et l'onde de matière en ce point, en ce point, en ce point, en ce point, sera cohérente, il y aura la même phase partout. Si on augmente l'intensité du laser, les puits deviennent de plus en plus profonds, l'effet tunnel est de plus en plus réduit, et à une certaine valeur de l'intensité, les atomes ne pourront plus passer d'un puits à l'autre, ils vont être localisés. Donc on aura des ondes de matière localisées, et il n'y a plus de cohérence de phase entre l'onde ici, l'onde ici, l'onde ici, l'onde ici. Donc on va avoir une transition entre une phase superfluide et une phase localisée. Donc, et ça, c'est l'analogue avec la transition superfluide isolante de la matière condensée. Et comment détecte-t-on la transition? On coupe le réseau, ce qui est facile en optique, il suffit de couper les lasers brusquement. À ce moment-là, l'onde va partir, s'exploser. Et dans le premier cas, toutes ces parties-là vont interférer. On va avoir la figure de diffraction d'une onde périodique dans l'espace. On va avoir une diffraction de Bragg. Dans ce cas-là, il n'y a plus un tel effet, on va voir simplement la fonction de diffraction de chaque fonction d'onde. Et voilà le résultat expérimental. Pour une intensité faible du réseau, on voit la diffraction de Bragg du réseau périodique, puis on augmente, ça devient de plus en plus flou, et pour une certaine valeur, on ne voit plus que la tâche de diffraction de chaque fonction d'onde séparément. Et on peut revenir en arrière, la transition est réversible. Donc ça a attiré un énorme intérêt, parce que c'est un très beau modèle pour la matière condensée. Autre exemple d'application, croisement BEC-BCS, on balaye une résonance de Feshbach pour explorer trois régions différentes de systèmes fermioniques. Dans la région A positive, il existe un état lié dans lequel les potentielles interactions peuvent se former dans des états de spin différents. Ces deux fermions peuvent former une molécule dans cet état, et si la densité est suffisante, ils forment un condensat. Donc on a un condensat de molécules dans la région A positive. Dans la région A négative, il n'y a pas d'état lié, mais comme je vous l'ai dit, les interactions sont attractives à longue distance, et qu'on tient compte de cette attraction et de l'effet à un corps, parce qu'on a beaucoup de particules dans une mer de Fermi, on peut montrer qu'il apparaît ce qu'on appelle des paires de Cooper. Ces particules très faiblement attractives se forment des paires très faiblement liées, des paires de Cooper, qui peuvent se condenser parce qu'une paire de deux fermions, c'est un boson, et les bosons peuvent se condenser. Et la condensation de ces paires de Cooper, c'est ce qui explique la superfluidité. C'est le modèle de Bardeen-Cooper-Schrieffer. En physique du solide, les deux électrons ont une possibilité de s'attirer mutuellement par l'intermédiaire des phonons. Quand un électron bouge, il crée un phonon derrière lui, et ce phonon, c'est une charge positive qui peut attirer l'autre électron. Il y a une interaction très faible entre les deux électrons qui donne naissance à des paires de Cooper qui, quand elles se condensent, donnent une phase superfluide sans friction qui explique la circulation du courant sans friction. On peut faire la même chose avec des atomes. On a donc deux phases superfluides, une phase superfluide de molécules, une phase superfluide de paires de Cooper. Évidemment, au milieu, il y a une phase très, très interactive parce que A est très, très grand et on a un système très corrélé. Et la question s'est posée, est-ce qu'il se passe quelque chose de remarquable qu'on passe d'un état à l'autre? Est-ce qu'il y a des choses spectaculaires? Est-ce que ça change? Et c'est une question qui était très ouverte et la réponse a pu être donnée par la physique atomique et par les condensats. À MIT, on a pu montrer qu'il y a des tourbillons quantiques dans les trois zones qui montrent qu'il y a bien une phase superfluide dans chacune des zones et qu'il n'y a pas de changement spectaculaire qu'on passe d'un état à l'autre. Donc ça aussi, ça a été quelque chose de remarquable. Troisième grande tendance d'évolution, on sait que la mécanique quantique prévoit des corrélations importantes et qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont basés sur les états intriqués pour réaliser ce qu'on appelle l'information quantique. Il y a une autre ligne de recherche qui peut être suivie, qui est ce qu'on appelle les simulateurs quantiques. Ça, c'est une idée de Feynman. L'idée, c'est de réaliser un système expérimental sur lequel on connaît tous les paramètres et qui simule une situation décrite par un Hamiltonien modèle. On se donne un Hamiltonien qu'on ne sait pas diagonaliser parce que les ordinateurs classiques ne peuvent pas le faire, c'est trop compliqué. Si on prend n spin, n spin, quand n arrive à une valeur de 100, ça devient impossible à régler, même les ordinateurs les plus puissants. Mais on réalise une situation expérimentale. On peut prendre 100 spins, 10 spins, et si on sait contrôler tous les paramètres, et si on sait faire l'expérience donnera la réponse au problème théorique qu'on se pose. Ce qu'on appelle une simulation quantique. Alors, pour avoir un bon simulateur, il faut qu'on puisse choisir le potentiel dans lequel les particules évoluent, il faut qu'on puisse contrôler les interactions de ces particules, il faut qu'on puisse contrôler la température, la densité, il faut qu'on puisse mesurer très, très précisément toutes les propriétés du système qu'on réalise. Bien, toutes ces conditions sont remplies par les gaz atomiques ultrafroids. On sait faire des potentiels optiques ajustables, soit un seul puits, soit deux puits, soit des puits périodiques de toutes les dimensionnalités possibles. On peut contrôler les interactions par des résonances de Feshbach. Et puis les méthodes de détection optique sont extrêmement souples. On peut mesurer tous les paramètres avec une grande précision. Donc, on peut espérer ainsi résoudre expérimentalement des problèmes qui sont impossibles à résoudre par suite du manque de puissance, de rapidité des ordinateurs classiques. En attendant, bien sûr, l'arrivée éventuelle des ordinateurs quantiques, qui n'est pas pour demain, je le crains malheureusement. Voilà. Et donc ça, c'est également une autre ligne de recherche très féconde. Donc j'en arrive à ma conclusion. J'espère vous avoir montré que notre capacité de contrôle et de manipulation des systèmes atomiques quantiques, atomes, molécules, ions, électrons, a augmenté de manière absolument spectaculaire au cours des dernières décennies, que les atomes ultrafroids ont donné naissance à des nouveaux domaines de recherche, l'interférométrie atomique, les horloges ultra précises, les gaz quantiques dégénérés, les systèmes fermioniques, permettant à leur tour de poser de nouvelles questions fondamentales et d'explorer des nouveaux systèmes, des nouveaux états de la matière, que ces systèmes ultrafroids apparaissent comme des systèmes modèles où tous les paramètres sont contrôlables et par conséquent qui permettent un éclairage nouveau sur des situations plus complexes. Et donc ceci est à l'origine d'un dialogue fructueux qui s'établit de plus en plus entre la physique atomique et d'autres disciplines comme la physique, la relativité générale et la cosmologie, la physique, la matière condensée, les transitions de phase, le problème à N-corps, l'information quantique. Et on voit de plus en plus des congrès, des colloques qui se mettent, comme par exemple un qui était l'an dernier, il y a 2 ans, Ultra Cold Atom Meet Condensed Matter. Et au laboratoire, j'ai vu récemment une affiche Quark Gluon Plasma Meet Cold Atom. C'est-à-dire qu'il y a des rapprochements entre les plasmas quark gluon et la physique des atomes très froids. Donc on peut espérer que les échanges de concepts entre disciplines, la complémentarité des approches, on peut espérer que ça débouchera sur des nouveaux progrès, peut-être des nouvelles surprises, comme on en espère toujours. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
C'était Claude Cohen-Tanoudji, prix Nobel de physique, membre de l'Académie des sciences. Il s'exprimait sur les atomes ultrafroids et les applications de cette connaissance en physique. Claude Cohen-Tanoudji était invité au Palais de la Découverte fin 2008 dans le cadre d'un cycle de conférences faisant appel à 4 prix Nobel français. Merci au Palais de la Découverte d'avoir mis cet enregistrement à la disposition des auditeurs de Canal Académie. Poursuivez l'écoute en téléchargeant les communications des autres conférenciers. Vous pourrez ainsi entendre Jean-Marie Laine sur le thème de la matière à la vie, Albert Fert sur la spintronique et Jean Jouzel sur le réchauffement climatique. Nous vous invitons également à consulter le programme des conférences et expositions du Palais de la Découverte à Paris. Merci de votre écoute et à bientôt.